Alors, notre sujet de ce matin, c'est un sujet très sensible. J'espère que vous allez tous demeurer ici jusqu'à la fin et qu'il n'y aura pas de division. Hein? C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, on a vu la semaine dernière que lorsque les disciples étaient tout seuls, après la mort de Jésus, après la crucifixion de Jésus, les disciples se sont retrouvés tout seuls et devinez quels ont été leurs... est-ce que je vise en haut, en bas? Hein? Ça avance-tu? Ou j'ai pas le bon? Ah, là voilà. OK. Alors, ça a été leur réaction, hein? Plein d'émotions qui étaient tout croches et... souvent, quand on vit des choses difficiles, on va avoir ces réactions-là. C'est tout à fait légitime. Mais j'ai remarqué qu'il y avait deux choses qui étaient positives dans cette circonstance-là. Ah, là, voilà. Ils sont restés ensemble. Hein? Au lieu de s'isoler comme Judas, ils ont cherché à venir ensemble. Alors, quand il arrive une épreuve... on a besoin de se sentir proches, réunis les uns avec les autres. Et il restait un petit grain de foi. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, on va transporter des montagnes. Et ils ont transporté des montagnes parce que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Hein? Wow! Et le Seigneur ressuscité a passé quelque temps avec eux, une 40aine de jours, mais il apparaissait, il disparaissait, puis il disait, je m'en vais au Père. Il les préparait. Je m'en vais, je ne resterai pas là. Je m'en vais au Père. Et il a offert une alternative. Quelle était cette alternative, ceux qui étaient là la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a prédit? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Moi, je m'en vais, mais... Oui. Hein? Je vais vous envoyer un autre consolateur. Alors, j'ai été avec vous pendant 3 ans, et je vais vous envoyer un autre consolateur qui va être avec vous pendant X années. Hein? Il va faire le travail que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre. Alors, soit on vit selon nos émotions, selon la chair, on se laisse emporter par nos émotions, la peur, la culpabilité, la honte, l'angoisse, l'inquiétude, nommez-les, n'importe quelle émotion. Soit on se laisse emporter par ça, soit, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit le Saint-Esprit. Ouais, le consolateur. Une particularité du Saint-Esprit, c'est le consolateur qui vient, pas juste à côté de nous, qui vient en nous. Il vient nous consoler personnellement. Puis Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous. Jésus est ici ce matin, puis il nous dit, c'est avantageux que je ne reste pas avec vous autres parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis ça va être encore meilleur. Pas de wow? Un wow. Hein, ça vaut un wow. Wow. Est-ce qu'on réalise ces paroles-là? Que c'est encore meilleur que d'avoir Jésus assis ici? On a le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. On va voir ça un peu plus tard. Et cette semaine, le Seigneur m'a donné un verset qui ajoute ou confirme cette chose-là. Hein? Dans 1 Pierre 5, 7, il dit, « Déchargez-vous sur lui de... » Non, juste quelques-uns. Quand... De tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car... lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on croit ça? Hein? Est-ce que je me laisse aller à mes émotions, mes peurs, mes craintes, mes inquiétudes? Ou je me décharge, hein? J'enlève le fardeau, le poids de ces émotions-là qui viennent me remplir, hein? Ils viennent me gâcher toute ma joie, toute ma paix. Je peux vivre selon la chair ou je peux vivre selon... l'Esprit. Faisons le bon choix. Hein? Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Est-ce qu'on croit ça? Seigneur, j'ai peur. Hein? J'ai peur de ce qui va arriver. Je suis inquiet. Laisse-toi emporter par la peur, puis fais des scénarios, puis essaie de contrôler tout ça, puis tu vois que tu vas être heureux. Non. Fais confiance, Seigneur, je te fais confiance. Je te remets ce fardeau-là, et puis je vais goûter à ta paix, à ta joie, parce que j'ai confiance que tu es à l'œuvre, que toute chose est dans ta main. Amen. Alors, Jésus a fait une promesse, hein? Il a dit que recevoir le Saint-Esprit, ils allaient recevoir le Saint-Esprit et que ça allait avoir un effet comme des fleuves d'eau vive qui coulent de l'intérieur. Tantôt, hein, des fleuves d'eau vive, on l'a chanté tantôt. Je pense que Christian est inspiré quand tu... Des fleuves d'eau vive, c'est nous ça, hein? C'est le Saint-Esprit à travers nous qui va envahir toute la planète, toute la terre à partir de Jérusalem et qui va ensemencer toute la terre, qui va bénir toute la terre. Et c'est rendu au Québec, c'est rendu à Cloverdale, ce fleuve d'eau vive. Hein? Alors, ça, c'était la promesse qu'on a vue la semaine dernière. Et les disciples étaient dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? Allez à Jérusalem, hein? Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Jésus l'avait annoncé plusieurs fois. Et qu'est-ce qui allait se produire? Vous allez être baptisés du Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. OK? Alors, on parle d'être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a eu un impact, ça a eu un effet foudroyant dans la vie des apôtres, des disciples. La venue du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce baptême du Saint-Esprit et c'est quoi mon expérience aujourd'hui de cette chose-là? Boum! Un vent violent. Sur la corne, des langues de feu qui viennent sur nos têtes, 3000 personnes autour qui se rassemblent, qu'est-ce qui se passe là? On sort et on parle chacun leur dialecte, dans leur langue, puis le soir, 3000 personnes qui sont baptisées. Alors, depuis des siècles, un siècle, pas des siècles, mais un siècle, aux alentours du début du 20e siècle, l'Église a comme été divisée en deux ailes, si on peut dire, sur la question du baptême du Saint-Esprit en particulier. J'aimerais que vous partagiez un petit peu ce que moi, je comprends de ça et que vous fassiez une conviction par rapport à ça, hein? Que ce soit votre conviction à vous. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je vais dire, mais d'examiner les Écritures, parce que je pense que notre expérience du Saint-Esprit, elle doit être fondée sur des Écritures, sur la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors, d'un côté, on a l'aile charismatique. Hein? Des gens qui désirent voir des signes visibles du Saint-Esprit, des manifestations extérieures et... Ils recherchent ça, ils désirent voir ça de tout leur cœur. Et puis, ils peuvent regarder ceux qui n'ont pas ces choses-là, ces manifestations-là, un peu de haut. Hein? Pas méchamment, mais il vous manque quelque chose. Hein? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, en tout cas, ça ne paraît pas. Alors ça, c'est une aile, je caricature, là, mais c'est une aile pas mal... qui ressemble à ça beaucoup. Alors, ça se base pas mal sur le texte dans Marc. Est-ce que vous pouvez lire en arrière? C'est assez gros, oui. Alors, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, mais pas de... Et en mon nom, ils vont chasser des démons, ils vont parler des langues nouvelles, puis ils vont poser les mains, les malades vont être guéris. Et... Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Alors, eux, les charismatiques, ils mettent toute leur énergie, mettent toute leur à voir ces signes-là se reproduire encore aujourd'hui. L'aile gauche ou l'aile droite, peu importe. Les cessationnistes, un langage de théologien, là. Alors, ceux qui croient que ça, ça a cessé. Hein? Et ils se basent sur Éphésiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Après Jésus, il y a les apôtres et les prophètes qui, durant cette période de temps-là, ont fait le salut annoncé tout d'abord par le Seigneur lui-même. Vous avez été confirmés par ceux qui l'ont entendu dans leurs oreilles. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Alors, l'Église est édifiée là-dessus, et ça correspond à la période de la naissance de l'Église, ça correspond à la période où le Nouveau Testament a été inspiré. Il y a des hommes qui ont reçu le message inspiré de Dieu, la révélation de Dieu. Ils l'ont prêché avec autorité, ça a été écrit. Et une fois que cette période-là est terminée, plus besoin de signes, de miracles. Les signes, les prodiges n'ont plus leur raison d'être. Ça, je vous parle des cessationnistes, là. OK? Vous me suivez?
Oui.
Et ces personnes-là, ils regardent les charismatiques de haut avec un regard très sceptique, puis ils vont dire, « Hey, vos signes puis vos manifestations du Saint-Esprit, là, ça va le pauvre. Hein? » Ce sont des tentatives humaines d'imiter ce qui s'est passé, par exemple, à la Pentecôte. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Je vous ai caricaturé les deux extrêmes, puis pardonnez-moi si ça chatouille, là. On va voir qu'il y a un point important là-dedans. Au milieu de ça, qu'est-ce qu'on a? On appelle les... Ah, c'est là! Les non-cessationnistes. Je ne mets pas de dénomination, mais là, on va en mettre une. L'Alliance est dans le milieu de ça, je pourrais dire. Ils vont dire, OK, c'est vrai, on ne peut pas reproduire la Pentecôte. Même si on essayait, ce n'est pas sous notre contrôle. Les langues de feu, le bruit, le vent, ces choses-là, ça ne s'imite pas. Là. Hein? C'est arrivé... C'est un événement historique, aussi historique que la naissance de Jésus. On ne peut pas répéter la naissance de Jésus et on ne peut pas répéter la venue du Saint-Esprit sur terre. C'est un événement historique. Alors, je pense que on est d'accord avec ça. Mais, par contre, il y a une différence. Parce que Jésus est venu, il a habité parmi nous et il est monté assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est venu, il habite parmi nous et il est encore là. Il est encore là. Alors, à la Pentecôte, depuis la Pentecôte, l'Esprit est né là, si on peut dire, il est venu dans le monde là et il est, à partir de ce moment-là, il s'est répandu. Je pense que c'est Tozer qui dit, on ne peut pas répéter la Pentecôte, mais elle se continue, hein? Elle se poursuit. Elle n'a pas arrêté, elle est rendue jusqu'ici. Vous me suivez? Alors, un peu dans le milieu. Alors, on peut pas, c'est pas juste de dire que c'est fini les signes, les miracles. Là, je parle de la position non cessationniste. C'est pas juste de dire qu'il n'y a plus de miracles. Hein? Je pense qu'il y a une place légitime dans la vie de l'Église, dans l'action du Saint-Esprit, dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans ma vie, puis dans la vie de l'Église, puis dans le témoignage de l'Église. Tout ça, c'est encore valable. Le fondateur de l'Alliance, un monsieur Simpson, A.B. Simpson, pas O.G., A.B. O.G. Simpson. A.B. Simpson.
Albert Simpson.
Albert, OK. il y a eu une guide, c'est un intellectuel très, très conservateur, et il y a eu une guérison miraculeuse. Sa vie a été complètement transformée, son ministère a été transformé. C'est là qu'est parti le mouvement des Églises de l'Alliance, parce que le miracle était possible, il avait vécu lui-même. Mais M. Simpson, il a prié toute sa vie pour recevoir le don des langues, puis il l'a reçu. Alors, il y a il est vraiment dans le milieu, là. Il représente l'Alliance, qui est un mouvement qui, oui, va recevoir des « charismatiques », entre guillemets, et des non-cessationnistes qui sont ouverts. Mais je dirais que le point le plus important qui décrit l'Alliance, c'est que c'est sans esprit de jugement. Que ceux qui pratiquent ces choses-là ne regardent pas avec mépris ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne cherchent pas ces choses-là, qui n'ont pas ces choses-là. Et ceux qui ne croient pas à toutes ces choses-là ne regardent pas d'une façon sceptique à ceux qui pratiquent ces choses-là. Je pense que c'est très important qu'on garde cet esprit-là. Il n'y a pas d'esprit de jugement. Hein? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et son maître, ce n'est pas moi. Descends du trône. Descends de ta position de juge pour regarder ton frère. Ça, c'est ça qui est le plus méchant. Hein? Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Peu importe les dons que tu peux avoir extraordinaires. Alors, comment qu'on regarde ceux qui pratiquent ou ne pratiquent pas ces choses-là? Alors, pour moi, là, je partage ma compréhension des textes. On va en voir beaucoup rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion quand on mélange les termes. Pour moi, baptiser, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit, c'est synonyme. Ça décrit la même expérience. Être rempli, la plénitude du Saint-Esprit, pour moi, c'est une expérience qui est différente. Les trois peuvent aller ensemble. Si on compare ce qui s'est passé à la Pentecôte, comment c'est décrit, alors ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. On pourrait dire, bon, les trois sont synonymes, mais je ne crois pas qu'on peut faire cette équation-là. Les deux premiers, c'est correct, baptiser et recevoir le Saint-Esprit. C'est comme, je dirais, au moment où je suis né, si je crie ou je respire, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je crie, que je respire, que je nais. Suivez? Hein? Alors oui, les trois peuvent être simultanés, mais ils ne correspondent pas nécessairement à la même expérience. Alors, gardons ça en réserve, là. Alors, il y a des personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple, vous en trouverez si vous viendrez me voir, de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit deux fois, ou une deuxième fois. On va voir les textes tantôt. Il n'y a personne qui a été baptisé du Saint-Esprit deux fois. Même Paul avertit les Corinthiens, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, et là, c'est un aoriste là, pour les savants, c'est-à-dire une expérience qui s'est passée dans le temps, hein? Quelque chose qui est déjà accompli dans le temps. Alors, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est une expérience initiale. Je pense que c'est relié à la nouvelle naissance. Lorsque je reçois Jésus comme mon sauveur, je reçois automatiquement le Saint-Esprit. Attendez avant de dire « wow, wow, wow! » Il y a d'autres textes où ça ne s'est pas passé de même. On y vient. Tandis que la plénitude, elle, ça se répète. On voit. Bon. Pierre qui est juste à quelques textes de différence. Pierre qui est rempli du Saint-Esprit à Pentecôte. Il arrive devant Sanhédrin, il dit « Pierre rempli du Saint-Esprit ». Et après, quand il retourne avec les disciples qui sont rassemblés, furent tous remplis du Saint-Esprit, y compris Pierre. Alors, on a un exemple de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. On aura le temps, probablement, de faire une étude sur la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit. Mais on se regarde dans le baptême du Saint-Esprit ce matin. Tandis que chez Corneille, ça demande un peu d'attention, là. Qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille? Les païens, les non-juifs, reçoivent et sont baptisés du Saint-Esprit au moment où ils croient. Est-ce que Pierre et les fidèles circoncis qui étaient avec eux ont été baptisés du Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, parce qu'ils l'avaient déjà reçu à la Pentecôte. Ça ne se répète pas. Alors, Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, pas Pierre et les disciples. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Puis ailleurs, il va dire... À la Pentecôte, il réfère à la Pentecôte, à une expérience initiale. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous au commencement. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit, le même don qu'à nous qui avons cru. Lorsqu'on a cru, on a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, ça va jusqu'ici? Deux textes qui, je pense, ont besoin d'explication. Ça ne rentre pas dans le... On essaie de mettre la parole dans notre boîte, puis il y a des versets qui ne rentrent pas. Alors, il faut les expliquer. Un premier verset, c'est... Ah oui, ça, c'est encore dans le texte précédent, Pierre et Corneille. Tandis que dans Acte 8, chez les Samaritains, c'est spécial chez les Samaritains, ils ont dû attendre, ils acceptent le Seigneur, ils sont baptisés, ils ont dû attendre deux apôtres de Jérusalem, Pierre et Jean, qui viennent de Jérusalem, avant de recevoir le Saint-Esprit. Il y a comme un délai entre l'acte initial de recevoir Jésus comme son sauveur, si on peut dire, et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a une explication? Qu'est-ce qui se passe là? C'est anormal, là. C'est différent de ce qui devrait se passer d'habitude. Pourquoi? Ce n'est pas un modèle qui s'est répété. On va voir l'autre occasion, mais ce n'est pas un modèle qui se répète, ça. Alors, je vous donne ma compréhension de ça. Je pense que c'est relié à la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, ensuite dans la Samarie, et ensuite, ouais, c'est comme la vague du Saint-Esprit, là. Hein, je pense que c'est Carl Smith, le père de Cheryl, qui nous a dit quand il est venu qu'il y avait 10 ans de différence entre la Pentecôte et la Pentecôte de Corneille, si on peut dire. 10 ans de différence. Il s'est passé 10 ans. Alors, c'est comme si le Saint-Esprit suivait. Les apôtres suivaient la progression de l'Évangile. Et avant que les disciples juifs, les chrétiens d'origine juive, acceptent des Samaritains qui étaient des bâtards, qui étaient à moitié juifs, à moitié païens, ça prenait le sceau apostolique, ça prenait le sceau des apôtres pour qu'ils viennent là. Et aussitôt que ça a été fait, aussitôt qu'ils ont été inclus dans le corps de Christ, qui ont été acceptés comme des vrais disciples de Jésus, le Saint-Esprit est venu confirmer leur acceptation ou leur incorporation dans le corps de Christ. Vous me suivez encore? OK. Sinon, on peut se parler après. OK? C'est ça, il y a eu la Samarie. Ah, il y a un autre groupe ici. C'est qui? De quelle personne est-ce qu'il parle? Des disciples de? À Éphèse, des disciples de? Jean-Baptiste, qui avait entendu parler de Jésus, mais comme des saints de l'Ancien Testament. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Hein? Jean-Baptiste a dit, Jésus s'en vient, même il l'a présenté, puis c'est en lui que vous devez croire. Mais ça s'était arrêté là, il était reparti à Éphèse. Et puis, il n'y avait pas eu d'autres nouvelles. Donc, c'était comme des croyants de l'Ancien Testament. Et ça a pris comme une intervention spéciale des apôtres, encore une fois, pour venir déclarer que ces personnes-là faisaient partie du corps de Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la Pentecôte, à Samarie, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce groupe-là, qui était un peu ambivalent, a été inclus dans le corps de Christ. Et à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est clair que c'était anormal. Dans le verset 2, là, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit normalement? Quand on croit. Alors, ils étaient comme dans une bande à part qui avait besoin d'être incorporée dans le corps de Christ. Mais, à part ces deux exceptions, je pense qu'ils sont explicables, du fait qu'on reçoit le Seigneur et on ne reçoit pas le Saint-Esprit automatiquement. Dans le reste, et surtout dans les épîtres, il n'y a pas de croyants qui n'ont pas l'Esprit. Ça n'existe pas. Les croyants qui n'ont pas l'Esprit, ça n'existe pas. La minute que tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois, tu as reçu le Saint-Esprit. La preuve, voulez-vous des preuves? Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On va voir ça tantôt. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hein? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas appartenir à Jésus-Christ, ne pas être un enfant de Dieu, ne pas avoir l'Esprit. Et Corinthiens, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, qui est synonyme de recevoir le Saint-Esprit, pour former un seul corps. Alors, est-ce que j'ai l'Esprit ou je ne l'ai pas? Mon frère, ma sœur, as-tu l'Esprit ou tu ne l'as pas? J'aimerais avoir un oui. Est-ce que j'appartiens à Christ ou j'appartiens pas? Hein? Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit?
Oui.
Bon. Est-ce que je fais partie du corps de Christ?
Oui.
Ouais. Tout ça, c'est synonyme. Tout ça, ça parle de la même expérience du Saint-Esprit. Je reçois, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, on a... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, il parle de l'Église en général, mais au chapitre 6, il parle de notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as reçu le Saint-Esprit le jour où tu as cru dans le Seigneur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit le jour où tu as cru dans le Seigneur. Alors, la question pour un croyant, C'est pas est-ce que j'ai reçu l'Esprit, est-ce que j'ai l'Esprit, j'ai pas l'Esprit. C'est pas ça. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? C'est pas ça la question. Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi ou non? C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Il est-tu caché dans le garde-robe? Parce qu'il habite, hein? Il habite en moi. J'habite un coloc à l'intérieur. J'habite en moi. Et là, on parle de plénitude du Saint-Esprit. Ça sera à développer, mais ce n'est pas la même chose. Hein? On peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. On a tous reçu, habité par le Saint-Esprit, mais on n'est pas tous remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je fais avec l'Esprit? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'Esprit qui fait défaut? Est-ce que c'est l'Esprit qui fait défaut? Est-ce qu'on doit l'attendre? Attendre qu'il se manifeste? Qu'il fasse son œuvre? C'était quoi le problème des Corinthiens? Les Corinthiens, imaginez, des chrétiens qui avaient l'Esprit de Dieu, ils allaient coucher avec des prostituées. Qu'est-ce que Paul leur dit? Bande de païens, vous n'avez pas l'Esprit, il vous manque quelque chose. Qu'est-ce que Paul dit? Réveillez-vous. Ne savez-vous pas? Hein? L'ignorance, l'inconscience, l'insouciance, l'aveuglement, ne savez-vous pas? C'est ça, la solution. Hein? Comment est-ce que des croyants dignes de ce nom peuvent aller coucher avec des prostituées en sachant qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux? C'est ça l'argument de Paul. On ne peut pas dire que tu as l'Esprit de Dieu puis vivre dans le péché. Même tu peux avoir tous les signes puis les dons que tu voudras. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Pour Paul, c'est inconcevable, c'est incompatible. Et il leur donne le bénéfice du doute, là. Hein? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins vous êtes croyant authentique, alors réveillez-vous, ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas agir, vivre comme des païens, puis dire que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Alors, c'est une chose de savoir, d'avoir une bonne doctrine, hein? Une bonne compréhension de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, de ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais c'en est une autre de vivre la plénitude du Saint-Esprit, d'expérimenter le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. D'accord? On n'a pas le contrôle du Saint-Esprit. On est dans une barque, un voilier, là. Puis même si tout le monde souffle en même temps, là, dans la voile, ça va-tu changer quelque chose? Ça n'avancera pas plus. Puis l'autre exemple, c'est on est tous dans la barque, puis il n'y a pas de voile. Le Saint-Esprit souffle, le vent souffle, pas d'effet. Hein, comme les deux extrêmes. Hein? Alors, ils sont la voile. Ils sont la voile. Quand le Saint-Esprit va souffler, on va avancer. Hein? On va être rempli. J'ai une petite histoire pour terminer. C'est un garçon. Il a une belle grosse tortue. Et puis, c'est son animal de compagnie. Il a reçu ça à sa fête, je ne sais pas trop. Mais il la trouve plate. Il la regarde, puis elle bouge pas à son goût. Hein? Il aimerait ça pouvoir jouer avec, comme un chat, un autre animal. Alors, il essaie différentes tactiques. Il vient flatter la tortue là, sur sa carapace. Puis, il lui parle gentiment. Puis, j'aimerais ça que tu avances. J'aimerais ça que... Hein? Aie pas peur, je te ferai pas de mal, puis il la rassure, puis tu peux sortir ta tête, tu peux sortir tes petites pattes, puis avancer. Puis, après un certain temps, il se tanne, puis là, ben, il va chercher un bâton, hein, un fouet. C'est la carapace. En vrai, il bouge, bouge. Hein? Très patient. La tortue, au lieu de bouger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre la tête. Les pattes à l'intérieur de la... C'est pire. C'est pire. Hein? Alors, c'est pas le genre à laisser tomber le petit gars. Il y a une idée. Il lève la tortue, la carapace de la tortue, comme un changement d'huile là, pour le... Prend une allumette. Puis il brûle pas, là. Il chauffe les pattes. Il lui chauffe les pattes. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Hein? En bon québécois, on dit les pattes, ils ont spiné. Ils ont spiné, viré de sourd. Hein? La tortue est partie. Ça. Hein? Ça s'est mis enfin. Hein? Elle ne s'est pas demandé si est-ce qu'il faut que j'avance ou pas, où est-ce que je dois aller. Il a mis le feu. Du bon feu. La tortue a pris en feu. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Dans peu de jours, vous serez baptisés. Le Saint-Esprit, hein? Jean a baptisé d'eau, mais moi, je vais vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, de feu, mais ça peut être une bonne... Le Seigneur nous met dans une situation où ça chauffe. Et wow! On sort de là. On marche, on est vivant pour le Seigneur. Des chrétiens qui sentent le feu, des chrétiens qui sont pris en feu. Pas parce que le Saint-Esprit n'est pas là, non, parce que le Saint-Esprit prend sa place. Hein? Il prend sa place dans ton cœur. Puis tu sors d'ici, tu es différent. Pas parce que le Saint-Esprit n'était pas là, parce que maintenant le Saint-Esprit est à côté de toi. Il est à côté de toi, puis à chaque pas que tu fais, il veut que tu sois le témoin. Que des gens, il y a des gens qui vont te voir puis vont dire, « Hey, je le veux, ça. Je le veux, ça. » Son amour, sa paix, sa joie. Un fleuve d'eau vive qui va couler. Puis 3 000 personnes qui se convertissent à Cloverdale. Hein? Parce que le feu est pris, un réveil. Et ça commence de l'intérieur. Dernier exercice, je vais vous distribuer ça, je l'avais tantôt. Ah, il est sur la chaise. Quelqu'un veut m'aider? C'est une prière de liberté. Je pense que Marc l'a déjà distribué. Parce qu'un des points importants que j'aimerais qu'on retienne, c'est pas d'être charismatique qui est quelque chose, c'est pas d'être sensationniste qui est quelque chose, c'est pas d'être de l'alliance, c'est comment je regarde l'autre personne. D'accord? Comment est-ce que je regarde l'autre personne? Et ça, c'est une prière qui en dit long. On va la faire ensemble. Je vais attendre que tout le monde l'ait. Est-ce que tu qu'il en manque? bon, peut-être des couples peuvent en donner à... Bon, j'ai manqué de foi. Je peux vous l'envoyer par courriel aussi. OK. Alors, je vais vous inviter juste, peut-être fermer les yeux, couper la tête comme une prière, je vais la lire. Et cette semaine, vous pourrez la méditer. Je pense que ce n'est pas juste une prière qu'on prononce, c'est une prière qui est méditée. On y va ensemble. Ô Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, écoute-moi. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être estimé, du désir d'être aimé, du désir d'être exalté, du désir d'être honoré, du désir d'être loué, du désir d'être préféré à d'autres, du désir d'être consulté, du désir d'être approuvé. Délivre-moi, Seigneur, de la crainte d'être humilié, de la crainte d'être méprisé, de la crainte d'être réprimandé, de la crainte d'être oublié, de la crainte d'être ridiculisé, de la crainte d'être lésé, blessé, de la crainte d'être incriminé. Et Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de désirer qu'on aime les autres plus que moi, qu'on estime les autres plus que moi, qu'aux yeux du monde, les autres croissent et que je diminue, qu'on choisisse les autres et qu'on me rejette, qu'on loue les autres et que je passe inaperçu, que les autres me soient préférés en toutes choses, que les autres deviennent plus saints que moi, pourvu que je devienne aussi saint que tu l'attends de moi. Oui, Seigneur Jésus, tu as entendu notre prière et on veut vraiment la vivre, cette prière-là, parce que si on est vidé de toutes ces mauvaises émotions-là, on peut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre la place. Viens, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit de peur, d'inquiétude, tout esprit de colère, d'amertume, tout esprit de tristesse. Et nous recevons ta joie, ta paix, ton amour, parce que, Seigneur, ton Saint-Esprit habite en moi, et c'est l'Esprit Saint. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu vas faire avec ces vérités qui nous libèrent. Cette prière de libération de soi-même pour être rempli du Saint-Esprit. Amen.